jour au lendemain, à la Linsten, bonsoir. Finalement, le pourquoi disparaît dans le propre du temps. Du jour au lendemain, avec Marcelin Plenet pour deux livres, Le propre du temps, chez Gallimard, collection L'Infini, et La Dogana, avec des lithographies de Pierre Nivollet, édition Claude Le Tessier. Nous allons beaucoup parler de tel quel cette semaine, Marcelin Plenet. Aujourd'hui, la semaine va s'ouvrir avec vous, mais Marcelin Plenet, 1995, elle se terminera vendredi avec Jacqueline Risset, biographe de Dante, et entre les deux, l'histoire entrera avec Philippe Forest et son livre sur l'histoire de tel quel, à laquelle vous êtes quand même pas mal associé, me semble-t-il.
C'est une histoire qui a 35 ans, oui, pas tout à fait en ce qui me concerne, puisque j'entre à tel quel en 1962, mais disons qu'elle a 33 ans, c'est le bel âge. Oui, c'est une histoire. C'est une histoire, si on veut, d'ailleurs, parce que moi j'ai des difficultés à penser ça comme une histoire. J'ai des difficultés à ne pas le penser comme ma propre histoire, et comme l'histoire d'une. Comment dire, d'une œuvre et même d'une pensée qui se développe sur 35 ans et qui essaie d'éclairer ou d'affirmer un certain nombre de choses en ce qui me concerne plus particulièrement, en effet, le langage poétique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et cette affaire-là, elle traverse en effet une histoire qui, ou telle qu'elle, a sa fonction. Et ce qui m'intéresse davantage, d'ailleurs, c'est l'histoire traversée que l'histoire de telle qu'elle, ce qui se fait, c'est l'histoire traversée telle qu'elle aboutit aux œuvres et qu'elle n'aboutit pas forcément à une histoire spécifique.
Mais vous êtes un peu à part dans cette histoire, faut bien le dire, parce que vous êtes à la fois l'homme omniprésent dans l'ombre en tant que secrétaire de rédaction de la revue. Et puis, et surtout, vous êtes poète, et des poètes à tel quel, il n'y en a pas eu tant que ça.
Non, il y en a eu quelques-uns, avec des postures à chaque fois assez singulières. Bon, je crois que j'entre au comité de tel quel en même temps que Denis Roche, qui déclare très vite que la poésie est inadmissible et qu'elle n'existe pas.
C'était un poète provisoire.
C'est une formulation qui, moi, m'intéresse parce qu'elle n'est pas logique du tout. Si elle est inadmissible, elle existe. Et en effet, pour moi, la poésie est inadmissible parce qu'elle existe. Elle est très difficile à admettre parce qu'elle existe. Donc, il y a Denis Roche, et puis, peu de temps après, Jacqueline Risset, en effet, qui est également poète, qui est beaucoup plus connue comme traductrice de Dante et comme...
Et de Fellini.
Dantologue. Elle a plus écrit sur Dante, plus travaillé sur Dante que sur Fellini, mais enfin, elle était proche de Fellini. Et quand même, si j'y regarde un peu attentivement, cette aventure de telle qu'elle concerne en très grande partie le langage poétique, sous des formes diverses. Le langage poétique, c'est pas forcément l'alexandrin, c'est pas forcément le poème, c'est quelque chose qui traverse la langue. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui a été, à mon avis, en débat au cours de ces 30 années, et qui continue d'ailleurs à être en débat. Parce que si l'on regarde ce qu'il en est, en effet, de la poésie, on s'aperçoit que pour tout un chacun, pour ceux qui nous écoutent, a priori, la poésie est discréditée. C'est-à-dire, on prononce le nom poésie et immédiatement, toutes les oreilles se bouchent et ne veulent rien entendre. Beaucoup de volumes, de, dits de poésie qui paraissent aujourd'hui justifient cela. Pas tous, mais un grand nombre justifient cela.
Comme
mais
les opérations du genre Maison de la Poésie, où on reçoit dans des théâtres maintenant et dans des caves voûtées des poètes qui viennent lire leurs textes.
Ça a toujours eu lieu, ça a toujours eu lieu. La médiocrité en poésie a toujours eu lieu. J'ai découvert récemment une anthologie de poésie de la fin du 19e siècle, où on trouvait à côté de Baudelaire des gens qui n'avaient aucune raison d'être là, si ce n'est simplement qu'ils occupaient le terrain. Donc il y a toujours eu cette occupation de terrain, mais dans un contexte où la poésie elle-même n'était pas discréditée, où l'on savait ce que ça veut dire. Or j'ai eu la curiosité de regarder au fond ce que fait tout jeune homme, et même parfois lorsqu'on est plus jeune, de regarder qu'est-ce que c'est que la poésie, et j'ai été consulter le Petit Larousse et je suis tombé sur, je cite, « caractère de ce qui touche, élève et charme ». Il est bien évident qu'avec une définition comme celle-là, on ne saura jamais ce que c'est que la poésie. Alors c'est la définition même d'une activité qui est vidée d'elle-même par cette définition. Caractère de ce qui touche, élève et charme, je ne sais pas, je suppose qu'un ascenseur dans certains immeubles touche, élève et charme dans leur élévation. Mmh. C'est une stupidité insensée. Donc, mais c'est quand même ce qu'il y a dans toutes les têtes. La poésie, c'est quelque chose qui se passe avec les sentiments, avec les petits oiseaux, avec l'affect. Dans toutes les têtes, il y a ça. Or, bien entendu, la poésie est tout. Cela aussi.
Alors justement, par rapport à cette définition que vous venez de citer, Marcelin Plenet, j'ai envie d'en citer une autre, qui n'est pas la définition d'un mot, mais d'un homme, due à un expert, bon, cet homme c'est vous, Marcelin Plenet, qui, au dire de ce connaisseur, est avant tout un poète, mot, dit-il, qu'il faut employer à son égard avec toute la charge de sauvagerie et d'intransigeance qui fait défaut d'habitude à des exercices exténués du même nom.
Oui, ça c'est un texte de Philippe Solers.
Ah, je vois que vous connaissez tous les textes de Philippe Solers.
Surtout ceux qui me concernent, bien entendu. Surtout ceux qui me concernent. C'est un texte de Philippe Solers à propos de Stanze, c'est-à-dire à propos d'un volume que j'ai publié dans les années 70, qui est en 9 chants et dont 4 chants étaient publiés à l'époque. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, il peut parler d'un peu de la sauvagerie. Et de l'intransigeance, justement.
Eh bien, ça veut dire, au fond, je crois qu'on va considérer comme sauvage tout homme qui ne se prête pas aux clichés et à l'abandon contemporain des lieux communs, fût-il poétique, et qui revendique en effet sa présence au monde et sa présence au langage. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Qu'est-ce que c'est que la poésie? Bon, on a la définition du Petit Larousse, mais étymologiquement, le mot, comme on sait bien sûr, vient du grec, du grec qui est poïen, et ça veut dire faire. Ça veut dire établir et faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot qui veut dire faire et qui est un mot dans le langage et qui concerne le langage? Eh bien, faire, ça veut dire tout simplement faire dans le langage ce qu'est l'homme, réaliser dans le langage ce qu'il en est de l'homme, ce qu'il en est de sa liberté et ce qu'il en est de sa vérité. Alors, ça peut paraître en effet intransigeant dans un monde fin du XXe siècle, hein, on est à 5 années de la fin du XXe siècle, 95, ça peut paraître en effet intransigeant dans un monde où le langage est complètement dissous, où les mots n'ont pratiquement plus de sens, où les hommes même n'ont pratiquement plus de raison d'être. Ça peut paraître en effet intransigeant dans un monde qui croit bien davantage au développement de la technique et au développement de la science qu'à la liberté que chacun, en tant que lui-même, peut acquérir dans le langage lui-même. Alors ça, c'est de l'intransigeance, et si on l'affirme avec une certaine... certitude, ça peut paraître à certains de la sauvagerie. Mais ça ne paraîtra jamais de la sauvagerie qu'aux esprits timorés, ou comme on dit aujourd'hui, aux esprits craintifs. En effet, c'est-à-dire aux esprits... Qu'est-ce que ce serait dans ce contexte qu'un esprit timoré et un esprit craintif? Ce serait au fond ce qu'on rencontre, hélas, trop souvent. Ce serait un homme qui aurait peur de lui-même, peur de sa liberté, et peur de découvrir ce qu'il en est des responsabilités que lui impose sa liberté d'homme.
Vous citiez Stanze tout à l'heure, un livre qui est apparu dans la collection telle qu'elle, en 1973, mais ce n'était pas votre premier livre de poésie, il y en a eu trois autres avant, qui ont été regroupés par la suite en un seul volume, les trois livres, puis suivi de beaucoup d'autres, comme Rimé, Fragments du cœur, Plaisir à la tempête. Et tous ces livres, si on les parcourt, parlent au fond de la même interrogation. Une interrogation sur le langage, comment être au plus près du langage.
Absolument. Étant entendu que pour moi le langage c'est l'homme. C'est-à-dire comment être au plus près de sa vérité d'homme et de sa vérité d'être humain. C'est le langage et le langage seul qui peut nous en donner et qui peut nous en donner les moyens et qui peut même nous en donner la mesure et la dimension. Alors à travers tous ces livres court cette question sur le langage et comment être à soi-même, pour soi-même, présent à ce langage, et comment se faire de ce langage et avec ce langage. Comment se faire dans la parole, comment être présent à sa propre parole, c'est au fond ce qui court à travers tous ces livres. Sanze est au cœur de l'opération, si je puis dire, puisque c'est un livre qui en principe a 9 chants, dont 4 ont été publiés. Je crois qu'on peut considérer le livre qui paraît aujourd'hui, Le propre du temps, comme le 5e chant, d'une certaine façon, c'est-à-dire comme le cœur même de l'opération.
Une opération qui ressemble à un exercice critique.
Aussi, si l'on veut, d'une certaine façon, mais comment ne pas traiter ce que nous vivons et ce que nous traversons. Je suis frappé par un certain nombre de choses. Une question que chacun pourrait être amené à se poser, surtout en cette époque où la France a décidé de refaire, par exemple, des expériences nucléaires, c'est-à-dire où du jour au lendemain, en effet, une partie considérable de l'humanité pourrait disparaître. Supposons, et comment écrire un livre en pensant autrement? Supposons que brusquement, toutes les bibliothèques viennent à disparaître et que par un hasard, heureux, il faut bien dire, ou malheureux, on ne sait pas, il ne reste plus qu'un livre. Comment va-t-on reconstituer ce qui a établi l'histoire et la dignité de l'humanité à travers un livre? Il est bien évident que s'il ne reste qu'un livre à travers certains livres, on ne pourra tout simplement rien reconstituer ou rien établir de ce qu'a vécu celui qui a fait ce livre. Alors ce qu'il a vécu, eh bien il le vit bien entendu au moment où il vit lui-même, mais il le vit aussi à travers son langage, qui porte une histoire. Chaque mot, étymologiquement, si l'on veut, traverse le temps tout entier. On voit bien qu'avec le mot poésie, eh bien, on ne va vraiment trouver la dignité de ce mot et redonner dignité à ce mot que si, en effet, on assume la traversée de ce mot de la Grèce antique jusqu'à nos jours. Eh bien, je pense que c'est de cela qu'il est question. Comment assumer son époque, comment assumer sa vie, de telle façon que lorsqu'on ouvre le livre, eh bien, on n'ait pas l'impression que celui qui l'a écrit n'a au fond vécu que les 15 ou 20 dernières minutes ou les 15 ou 20 dernières années de sa vie, préoccupé par son nombril ou par des états d'âme plus ou moins heureux, ou tout simplement préoccupé par des anecdotes aussi bien politiques, si l'on veut, très très ponctuelles. Il est bien évident que pour notre époque, eh bien, un homme qui traverse cette époque ne peut pas faire l'économie d'un certain nombre de choses. Il a vécu cela, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a dans sa sensibilité, il l'a dans son sang, et il continue à le véhiculer. Et en plus de cela, eh bien, il a une certaine responsabilité en face de ce qu'il a vécu. Que ce soit de l'ordre du privé, de l'ordre du public, ou de l'ordre du public dans le privé. Il a une responsabilité, il doit en quelque sorte se définir par rapport à ce qu'il traverse et par rapport à ce qu'il a vécu. Qu'est-ce que c'est que le XXe siècle? siècle. Qu'est-ce que c'est que ce 20e siècle? Mais c'est quand même, si l'on veut, un développement spectaculaire et sans précédent des sciences et des techniques. Par exemple, tel que, en effet, du jour au lendemain, disposant de l'énergie atomique, on peut faire que le 90%, voire même toute l'humanité, disparaisse. Ça demande une présence considérable à sa propre humanité pour se trouver consciemment en face de cela. Ça, c'est une première chose, développement des sciences et des techniques. Mais cette humanité elle-même, dans sa croyance en la science et dans sa croyance en la technique, est en train de disparaître. Par exemple, on découvre que des savants américains peuvent désormais créer des clones, c'est-à-dire, au fond, évacuer l'humanité, faire de l'homme une matière première indéfiniment reproductible et sans autre présence que celle de sa matière première. On découvre récemment qu'une société d'éthique américaine vient d'autoriser l'euthanasie des enfants, tout simplement pour disposer des organes. C'est un monde tout à fait nouveau. Comment être présent à cela? Eh bien, bien sûr, il y a le discours que je fais en ce moment, mais ce discours, il disparaît au moment même où il est prononcé, tout simplement parce que nous sommes dans une consommation de discours plus ou moins convenus, dans des langages plus ou moins élaborés, qui les évacuent les uns les autres. Mais à supposer qu'on décide en effet d'opposer la réalité qui constitue l'homme. Or l'homme, ça n'est pas sa matière première, c'est une matière première qui pense, c'est une matière première qui parle, et c'est une matière première qui a cette capacité tout à fait singulière de rire. Eh bien, comment constituer la pensée, la parole et le rire? Le rire, c'est-à-dire au fond la liberté que l'on a vis-à-vis de la pensée, vis-à-vis de la parole et vis-à-vis des événements, comment la constituer dans ce monde qui est le nôtre? Eh bien, je pense qu'une façon de la constituer, c'est d'assumer à tout moment son langage et la charge de son langage. Or, dès que l'on prononce un mot, quel qu'il soit, ce mot traverse l'histoire. Ce mot, il a été plus ou moins prononcé dans une autre langue, en grec, en latin, en italien, en français, dans d'autres types de revendications et de manifestations de la réalité humaine. Eh bien, ce mot, il faut lui donner toute sa charge et faire que, dans la façon dont ce mot appréhende le temps qui est le sien et le temps dans lequel il se prononce, ce mot s'oppose, en tant que réalité humaine, à tout ce qu'il y a d'inhumain que l'humanité est en train de produire.
Le propre du temps, Marcelin Plénède, ce nouveau livre qui paraît donc chez Gallimard dans la collection L'Infini, est composé de 5 séquences. Oui. Leur forme d'ailleurs est sensiblement différente, mais il me semble que l'aspect formel n'est pas l'essentiel.
En effet, l'aspect formel n'est pas l'essentiel. Ce qui s'impose, le titre l'indique bien d'ailleurs, c'est « Comment être au propre de son temps ». Et je crois que si l'on retient ce mot, le mot de temps, qui préoccupe d'ailleurs tout le monde de façon plus ou moins superficielle, beaucoup de gens ont le sentiment que le temps passe inexorablement. Alors c'est une façon de s'inscrire dans le temps. On peut s'inscrire dans le temps et dans un temps qui passe. C'est-à-dire on peut s'inscrire dans la chronologie du temps. Où on peut s'inscrire dans ce qui fait la réalité même du temps. Et c'est une banalité, mais je crois qu'on peut, il faut la souligner. Il y a dans notre façon de penser le temps, il y a une caractéristique du temps qui le constitue aussi bien dans sa chronologie que dans sa réalité propre. Et cette caractéristique, c'est un des aspects du temps, si l'on veut, que l'on appelle le présent. Comme chacun sait, le présent est en effet un temps impossible à saisir. À peine l'a-t-on nommé qu'il est passé et que déjà il est dans l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce présent? Comment être présent? Qu'est-ce que c'est qu'être présent? Et qu'est-ce que c'est qu'être présent à la présence qu'est le monde? Voilà, ça, c'est ce qui joue au cœur de ce livre. Et ce qui, du commencement à la fin, établit la réalité de ce livre. Le livre est introduit par une phrase d'Héraclite qui est en grec, en épigraphe, et que j'ai voulu en grec pour une raison tout à fait précise, et que l'on traduit généralement, le temps est un enfant qui joue avec des dés, cet enfant est roi. Or, en y regardant attentivement, le grec n'emploie pas le mot chronos, mais emploie un autre mot. Les Grecs avaient deux mots pour définir le temps, le chronos, la chronologie, et l'aïon. Or, l'aïon, on le retrouve à travers toute l'histoire de la littérature grecque, et on le retrouve déjà chez Homère. L'aïon, c'est en effet défini bien davantage que la chronologie ou qu'un temps chronologique. Il définit la vitalité, la présence vitale à soi-même. Alors, la présence vitale à soi-même nous constitue comme un enfant qui joue avec des dés. Et cette présence vitale à soi-même fait qu'on est pour soi-même un roi. Fait qu'on se... un basileus, on règne sur soi-même. On est capable de régner sur soi-même. Autrement dit, on n'est pas dévoré. On n'est pas dévoré par ce qui détermine notre vie en société. On n'est pas dévoré par les lieux communs que l'on est forcé de partager pour vivre en société. Mais on se révèle capable et susceptible de penser ces lieux communs. Donc le propre du temps, c'est proprement l'aïon. C'est proprement ce temps qui est une sorte de temps cosmique et qui est aussi le temps de la création. Parce que ce présent que l'aïon définit d'une certaine façon, chaque créateur en fait l'expérience. Mais pas seulement chaque créateur, chaque homme en fait l'expérience. Chaque créateur en fait l'expérience parce que demander à un peintre ou à un écrivain, c'est pas vous que je vais dire ça, on commence à écrire, et puis, brusquement, on oublie. On est en train d'écrire, on oublie. On regarde sa montre, il s'est passé 3 minutes. Et on a l'impression qu'il s'est passé un temps considérable. Ou bien c'est le contraire. On commence à écrire, on a l'impression qu'on vient de commencer à écrire, on s'aperçoit qu'on a travaillé une demi-heure. C'est valable pour un peintre. Mais c'est valable pour tout homme qui vit réellement l'expérience qui est la sienne. C'est valable pour les rapports amoureux, c'est valable pour les rapports sexuels, c'est valable pour toute expérience qui se trouve forcément adéquate avec elle-même. Autrement dit, toute expérience forcément adéquate avec elle-même se vit dans la présence de soi-même et dans ce temps présent qui vient faire trou dans la chronologie et qui, faisant trou dans la chronologie, révèle la vérité de la chronologie. Autrement dit, ce temps présent qui vient faire trou dans la chronologie, eh bien, il est forcément critique par rapport au temps chronologique. Mais vous savez, critique, ça n'est pas un terme moderne. Que la poésie soit critique, ça n'est pas un terme moderne. C'est le propre de tout ce qui constitue les grands monuments poétiques dont nous avons hérité. Si vous prenez, nous parlions de Jacques Littrisset, si vous prenez Dante, ben vous apercevez qu'il n'y a pas plus critique par rapport à lui-même et par rapport à son époque que Dante. C'est ainsi que Dante va mettre, en effet, un pape contemporain en enfer. Qu'il va passer toute une partie, à la fois de l'enfer, du purgatoire et du paradis, à discuter très sérieusement avec des gens qui sont ou ses contemporains, ou bien qui viennent d'un tout autre monde, d'une toute autre époque. Il est guidé par Virgile, il est guidé par un latin. N'est-ce pas? C'est un Italien qui est guidé par un latin. C'est autrement dit, c'est une langue nouvelle, l'italien, qui se trouve guidé par la langue qui l'a produite, le latin, et qui rencontre, en effet, d'autres aventures dans la langue qui sont le grec. Eh bien, si vous prenez ce monument-là, mais on pourra en prendre un autre, si vous prenez ce monument-là, eh bien, vous vous apercevez qu'en effet, c'est à la fois un monument qui manifeste admirablement ce qu'il en est de la présence d'un homme en son époque, et à travers les époques aussi bien, puisque c'est tout aussi présent aujourd'hui, donc ça manifeste la présence d'un homme à son époque, et un dialogue critique avec la chronologie, c'est-à-dire avec l'histoire dont il hérite et qu'il doit assumer au présent.
Au centre de votre livre, Marcelin Plenet, une séquence intitulée « La méthode ». Voilà un titre singulier dans un livre de poésie. Il n'y a guère que chez Francis Ponge, je crois, qu'on peut trouver ce mot.
Oui, et je pense que ça n'est pas par hasard du tout si, si la seconde moitié du XXe siècle se préoccupe de ce mot de méthode. Je pense que ça n'est pas un hasard. D'abord, j'ai été, comme vous le savez, assez proche de Francis Ponge, qui m'a fait l'amitié de penser que ce que je faisais n'était pas étranger à son œuvre, en un premier temps en tout cas. Ensuite, il a trouvé que j'allais un peu trop loin, ce qui m'a rassuré d'une certaine façon. Je crois que ça n'est pas tout à fait un hasard si la seconde moitié du XXe siècle revient sur ce mot de méthode, et surtout dans le français, bien entendu. Qu'est-ce que ce mot éveille dans le français au XXe siècle et dans le cadre de ce qu'on appelle la poésie? Mais là, on excède considérablement ce que le petit Larousse définit avec la poésie. Là, on parle tout simplement de la poésie comme propre à la pensée, comme un élément propre à la pensée, comme une pensée risquée, si l'on veut, n'est-ce pas? Donc je crois que si l'on prend la poésie comme ça, comme une pensée risquée qui traverse la chronologie et qui vient faire présence à l'intérieur de la chronologie, dans le français, le mot méthode renvoie inévitablement, bien entendu, au discours de la méthode, c'est-à-dire à Descartes, c'est-à-dire à un aspect particulier de la philosophie. Autrement dit, je pense que ce retour sur cet aspect tout à fait particulier de la philosophie, sur cette fondation de la philosophie dans le français d'une certaine façon, mais pas de n'importe quelle philosophie, sur cette fondation de la métaphysique dans le français, arrive à un moment où en effet la pensée peut constater que l'histoire de la métaphysique n'est pas forcément l'histoire de la civilisation dans ce qu'elle a de plus libre, mais qu'elle est une forme de contrainte à l'intérieur de l'histoire de la civilisation, et que le XXe siècle, à travers deux philosophes, dont l'un écrit à la fin du XIXe siècle, Nietzsche, et l'autre dans la première moitié du XXe siècle, Heidegger, pense en effet qu'il faut interroger cette histoire de la métaphysique. Que si l'on veut comprendre ce qu'il en est des monstruosités qui habitent notre époque, et de cette monstruosité particulière que Nietzsche appelle le nihilisme, et qui nous habite, et qui a habité notre époque, et qui a même créé au cœur de ce XXe siècle un des foyers d'infection à travers le fascisme et à travers le stalinisme, des foyers d'infection particulièrement odieux et particulièrement singulier à ce siècle, eh bien, si l'on veut comprendre cela, il faut en effet interroger la métaphysique, et en effet interroger aussi bien, dans cette histoire de la métaphysique, l'œuvre de Descartes. Donc, qu'est-ce que signale un titre comme celui-là? Il signale d'abord, en effet, qu'il y a une interrogation sur l'histoire de la métaphysique en tant qu'elle serait l'histoire de la pensée et l'histoire de notre civilisation. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'en effet, ce fragment du livre qui s'appelle La méthode est introduit par une phrase qui est en épigraphe et dont je n'ai pas cité l'auteur, mais qu'on reconnaît facilement pour être de Rimbaud. Rimbaud est peut-être le premier poète à avoir manifestement signalé cette crise de notre histoire. Et cette phrase est la suivante. Petite veille d'ivresse sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié, nous t'affirmons méthode. Ce que j'aime là, c'est petite veille d'ivresse sainte. Parce que je crois qu'en effet, l'inspiration, ce qu'on appelle communément l'inspiration poétique, vient d'une veille et d'une méditation. L'écrivain, le poète au sens le plus large du terme, parce que ça peut être aussi bien un romancier, si l'on veut. Est-ce que, par exemple, un livre comme Finnegans Wake, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est un poème? Est-ce que Paradis de Solers, c'est un roman ou c'est un poème? On pourra en citer beaucoup d'autres. Je pense que le langage poétique est en effet une veille et une méditation. Une méditation au cours de laquelle circulent un certain nombre d'événements, un certain nombre de pensées, un certain nombre de choses qui se trouvent confrontées les unes aux autres dans un esprit de confrontation, beaucoup plus que dans un esprit critique au fond, dans un esprit de confrontation qui les révèle en vérité.
La méthode, donc, c'est ce qui nous permet de nous inscrire dans le temps.
En effet. Et comme je crois le dire quelque part, la méthode est forcément singulière. Elle est forcément singulière, elle est forcément de l'ordre du présent, c'est-à-dire cette veille d'ivresse sainte qui fait qu'on oublie la chronologie, qu'on est parfaitement présent, on est parfaitement présent à soi-même, et que c'est cette présence qui inscrit un homme dans le temps.
Vous citiez Nietzsche, Heidegger, bon, qui sont effectivement très présents dans ce livre. Est-ce que de telles références philosophiques sont bien à leur place dans un livre de poésie ?
Mais vous savez, si vous prenez ce qu'on admire le plus dans l'histoire, de ce qui nous constitue au fond notre colonne vertébrale intellectuelle et culturelle, et littéraire et poétique si l'on veut, la poésie n'a cessé de discuter avec les philosophes. On citait Dante tout à l'heure, on pourrait citer Homère. Homère, comme vous savez, a tout simplement servi à constituer la pensée des Grecs. Non seulement il a servi à constituer la pensée des Grecs, mais c'était un poème qui servait à construire des bateaux. N'est-ce pas ? Pour construire un bateau, on allait regarder dans l'Iliade ou dans l'Odyssée comment on construisait un bateau. Vous avez Dante qui discute avec saint Thomas, avec saint Augustin, avec les philosophes grecs, avec la philosophie arabe, etc., etc., etc. Si vous prenez Shakespeare, vous avez la même chose. Si vous prenez beaucoup plus proche au 19e siècle, si vous prenez Baudelaire, eh bien ça n'est jamais tellement mis en évidence. Mais il est bien évident que les fleurs du mal, par exemple, sont un long dialogue avec Pascal. N'est-ce pas ? Tout ce que Baudelaire dit de l'ennui est directement lié à la lecture que Baudelaire a faite de Pascal et du fameux ennui pascalien. On retrouverait ça. Ça n'est pas particulier chez moi. Simplement, c'est plus explicite. Je le dis plus explicitement. Mais vous pourriez retrouver ça chez un poète qui est un peu plus âgé que moi, comme Yves Bonnefoy, dont l'œuvre est une longue discussion avec le néoplatonisme. Donc, d'une certaine façon, poésie et pensée ne sont pas identiques, mais sont très étroitement liées. La poésie ne mérite son nom, en effet, que lorsqu'elle est très étroitement liée avec la pensée, lorsqu'elle se révèle capable de penser et de donner à penser.
Il n'y a pas d'indication de genre, là, sur la couverture de votre livre. Quelquefois, on met poésie, d'autres fois, poème, au singulier ou au pluriel. Et là,
Sur un certain nombre de mes livres, il n'y a jamais eu poème. Autant que je sache, il n'y a jamais eu poème. Il y a eu poésie à plusieurs reprises et bien des fois. Je pense que le mot disparaît à partir de stanze. Et en effet, sur la couverture, il n'y a plus que les titres. Le titre étant plus indicatif, me semble-t-il, qu'un genre qui est discrédité et qui, comme vous le voyez, si on consulte la définition qu'en donnent les dictionnaires, a pratiquement perdu tout son sens. Donc il s'agit en vérité de redonner, non pas au genre, parce que c'est d'autre chose qu'il s'agit, mais il s'agit de donner à la réalité de la chose, c'est-à-dire à la réalité du langage en tant que son essence même est poétique et est la poésie, il s'agit de lui redonner sa qualité. Donc il faut que le livre entraîne le lecteur à constater qu'il entre dans du langage poétique et que le mot ne soit pas sur la couverture où il aura l'impression immédiatement de savoir de quoi il s'agit alors qu'il ne le saura pas. Et même le saurait-il, il est bien évident que chaque livre suppose un rapport différent au langage, donc un rapport différent à ce qui constitue l'essence même du langage, à savoir la poésie.
parliez de la construction des bateaux, Marcelin Plenet, mais on pourrait parler aussi de la construction des livres. Comment ça se construit, un livre comme Le Propre du Temps ?
Le Propre du Temps est construit à la fois l'établissement de la présence d'un homme à son temps et comme la réalisation même du discours de cet établissement. C'est-à-dire, Le Propre du Temps commence par un ensemble qui s'appelle Théâtre des Opérations. Dans le Théâtre des Opérations, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on va trouver, en effet, ce qu'il en est aujourd'hui du monde dans lequel nous vivons, du monde dans lequel je vis, du monde que nous traversons. C'est-à-dire, bien des événements relativement récents, comme la fin de la guerre froide, par exemple, la chute du mur de Berlin, comme la guerre du Golfe, comme en effet la constitution de ce XXe siècle, comme je le disais tout à l'heure, comme devant réagir au fascisme et au stalinisme, théâtre des opérations. Autrement dit, c'est dans le théâtre du monde que le langage se déploie. Et c'est ce théâtre du monde que le langage révèle en vérité, c'est-à-dire en mettant aussi bien certaines parties de ce théâtre en enfer, d'autres au purgatoire et d'autres au paradis. Donc, théâtre du monde. Ensuite, constitution du langage à travers l'appréciation, constitution sur du langage qui constitue le livre, de la façon dont le livre est écrit, à travers l'appréciation de ce théâtre des opérations. Alors, en un second temps, l'énergie en principe, c'est-à-dire cette force vitale, qui se confond, ce temps présent, cette force vitale, qui se confond avec la poésie même, est telle qu'elle est une énergie qui habite le langage. Donc l'énergie en principe, avec à l'intérieur de cette énergie en principe, eh bien un fragment sur l'atome. Hein, un fragment sur ce qui est une, en effet, ce qui n'est pas la moindre des choses de notre monde. Hein? Donc l'énergie en principe, c'est-à-dire ce qui détermine, ce qui porte le langage lui-même et singulièrement, puisque l'énergie de l'un n'est pas l'énergie de l'autre. En un second temps, la méthode, à savoir comment assumer à la fois l'époque, l'énergie qui se manifeste à l'intérieur de cette époque et à l'intérieur d'un homme, et comment transformer cette époque, cette énergie, en langage et en écriture poétique. En un troisième temps, et à titre d'illustration, une route en Italie. Alors, une route en Italie, c'est tout simplement pour évoquer, et quasi, presque comme illustration, en effet, de l'ensemble du livre, pour évoquer un cheminement en Italie, d'Arezzo à Sansepolcro. Sansepolcro, c'est la ville de naissance de Piero della Francesca, et c'est là que se trouve la transfiguration du Christ. Il se trouve que j'ai fait jeune homme cette route. Et il se trouve que 20 ans après, j'ai été amené à la refaire. Et en cheminant d'Arezzo à Sansepolcro, aussi bien en voiture qu'à pied, d'ailleurs, il y a 20 ans, c'était à pied, la dernière fois c'était en voiture, ben j'ai été amené en effet à évoquer tous ceux qui ont fait cette route avant moi. Et qui, ayant fait cette route avant moi, m'ont permis de penser ce qu'il en est de ce cheminement-là particulier. Or, il se trouve qu'avant moi, eh bien, mon Dieu, il y a eu Montaigne qui s'est trouvé exactement sur cette route et qui en parle. Et il y a eu, dans les latins, Pline, qui lui aussi s'est trouvé sur cette route et qui en parle. Donc, une route en Italie, ça montre que, tout simplement que, quelle que soit la route que l'on prenne au présent, on traverse et on dialogue forcément avec ceux qui l'ont déjà emprunté, que l'on ne peut plus, et qu'on n'a sans doute jamais pu, être pour la première fois sur une route. Qu'on est tout à la fois toujours sur la première fois sur une route et pour la première fois en dialogue avec ceux qui sont déjà passés sur cette route en Italie. Autrement dit, si vous voulez, traverser en effet du livre comme manifestant le fait que c'est une route qui est empruntée pour la première fois, mais sur laquelle on rencontre d'autres hommes, d'autres écrivains, d'autres poètes, d'autres penseurs, qui l'ont traversé eux-mêmes aussi pour la première fois et avec lesquels on dialogue.
Il y a une ville d'Italie qui apparaît à plusieurs reprises dans Le Propre du Temps, Marcelin Plenet, comme indication de lieu où les poèmes ont été écrits, c'est Venise. Et Venise, évidemment, est présente dès le titre de l'autre livre dont je parlais en annonçant l'émission, La Dogana. Alors là, c'est un beau livre, comme on dit, hein. C'est une édition bibliophilique, peu d'exemplaires, avec des lithographies de Pierre Nivolet chez Claude Le Tessier. Et ce livre se présente aussi comme une méditation sur la traversée, le passage, l'ouverture de la langue.
Il y a ça en effet, il y a ça en effet. Le livre m'a été demandé par une amie, Bénédicte Saxe, qui travaille pour le compte de Claude Le Tessier. C'est un tirage de luxe à 200 exemplaires, qui a cet avantage de mettre le texte dans de la couleur. Dans de la couleur, c'est-à-dire la couleur des œuvres de Nivolet, qui est en effet un peintre qui maîtrise admirablement la couleur, et qui a fait de très très jolies choses. Venise, parce que j'y vais très régulièrement, et là aussi je mets mes pas dans les pas d'un certain nombre d'autres, notamment Pound, que j'ai vu à Venise lorsqu'il était vivant, assis là, pas très loin de la Dogana. La Dogana, vous savez, à Venise, c'est ce lieu qui s'avance entre la place Saint-Marc et l'isola San Giorgio. Et c'est en effet la douane de Venise. Or, j'ai choisi ce titre de Dogana parce que dans cette méditation et dans cette traversée du temps et dans cette évocation des œuvres du temps, eh bien... L'ivresse sainte, comme dit Rimbaud, la méditation, l'ivresse sainte, donne d'abord l'impression qu'on passe en douane. C'est-à-dire qu'on passe une frontière, en effet, quelque part. Lorsqu'on se trouve, et à Venise, c'est très frappant, lorsqu'on se trouve à la pointe de la Dogana, eh bien, on a, mon Dieu, ces constructions de marbre sur l'eau qui nous entourent, on a tout cet ensemble considérable d'évocations... du temps, des vocations de l'art, des vocations de la culture, des vocations des œuvres. Dante est passé à Venise aussi. Et on a ce moment dans la méditation où on a le sentiment qu'on va en effet passer de l'autre côté, qu'on va en effet passer dans le présent et qu'on va être présent, non pas seulement à l'instant où on se trouve assis sur les marches en train de regarder l'eau qui avance et qui recule, non pas simplement à ce moment-là, mais présent à tout ce qui a été vécu en ce lieu et qui se retrouve vivant à ce moment précis où on est là. Et ça, c'est comme un passage en douane, c'est réussi ou c'est raté. Autrement dit, la langue parvient à témoigner de cela ou elle ne parvient pas à en témoigner. Si elle parvient à témoigner, le passage est effectué.
Marcelin Plenet, La Dogana avec des lithographies de Pierre Nivolet chez Claude Le Tessier et Le Propre du Temps, collection L'Infini chez Gallimard. Du jour au lendemain, Noélie Louis-Marie, Bruno Sourcy, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.